franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Au début, il n'y croyait pas. Quand il a décidé de se lancer dans l'aventure, il ne croyait pas en ses chances. Trop d'adversaires face à lui, trop de concurrents dans la partie depuis bien plus longtemps que lui. Pourtant, c'est lui qui a gagné. Jeudi soir, Samy Bouatour a remporté le Grand Prix de la baguette de tradition française. On retrouve son portrait dans Aujourd'hui le Parisien. L'histoire d'une reconversion réussie, née à Maison Alfort d'un père restaurateur originaire de Tunisie. Samy Bouatour a tout d'abord suivi le chemin de son paternel. Il est devenu directeur d'un restaurant, porte-maillot à Paris, mais approchant de la quarantaine, il a eu envie de changer de vie et de réaliser le rêve qu'il avait depuis tout petit, se lancer dans la boulangerie. 6 mois de formation, brevet professionnel, une première boutique dans le Val d'Oise, puis une deuxième dans le 13e arrondissement de Paris. Mais franchement, il n'y croyait pas lorsque jeudi matin, accompagné de sa femme, il a pris le bus 57 pour aller porter 2 baguettes au siège du syndicat des boulangers du Grand Paris, là où se déroulait le concours. « J'ai dû prendre les plus moches », confie-t-il à Philippe Bavrel, précisant que les plus belles l'auraient d'emblée disqualifié. Elle pesait 10 grammes de trop par rapport aux critères de poids fixés par le jury. Pourtant donc, sur le coup de 18h45, il a appris que c'était lui qui avait remporté le Grand Prix de la baguette 2017 à la clé 4000 euros, mais aussi le privilège de fournir pendant une année le palais de l'Élysée.
Un palais où il croisera sans doute Guillaume Gomez.
Lui, c'est le chef cuisinier de la résidence présidentielle et c'est dans VSD qu'on retrouve son portrait. Portrait d'un homme de 38 ans, à la tête d'une brigade d'une vingtaine de personnes chargées de préparer 200 repas par jour et dont la devise témoigne de son souci des produits hexagonaux. Tu bois un canon, tu sauves un vigneron. C'est il y a 20 ans que pour la première fois il a mis les pieds dans les dépendances du château. À l'époque, celui-ci était occupé par un Jacques Chirac, grand amateur de tête de veau. Et Guillaume Gomez n'imaginait pas vraiment finir sa vie entre les murs du palais. Mais le gastronome a finalement pris goût aux ors de la République, comme aux traditions. Nommé chef des cuisines de l'Élysée en 2013, il dit que ce qu'il aime par-dessus tout dans son métier, c'est qu'il n'y a jamais de routine. Le vendredi, tu peux croiser Kate Middleton et le samedi, Miss Univers. Bref, il est content d'aller bosser. Cela dit, il y a parfois des moments difficiles, comme lorsqu'il y a 3 ans, à l'issue d'un dîner organisé pour la visite du président chinois, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick, avait lâché très désinvolte. Le repas était dégueulasse. Suite à cet incident, le jeune chef avait proposé sa démission. Démission refusée par François Hollande. Et désormais, Guillaume Gomez attend de pied ferme le futur locataire des lieux. Le soir du premier tour de la présidentielle, il a posté sur Instagram une photo de sa carte d'électeur tamponnée. En dessous, il avait écrit « Quant à le power d'aller choisir ton boss ».
Et c'est donc demain soir que l'on connaîtra le nom du nouveau boss de l'Élysée.
Et bien sûr, le sujet fait la une de quasiment tous les journaux. Ouf, la campagne est terminée, titre ainsi l'Union ce matin. La campagne est finie. C'est le grand soulagement à bond de l'Ardennais qui en avait visiblement ras-le-bol d'avoir à commenter les petits plats sacrément salés de la cuisine électorale, en l'occurrence. La campagne s'est donc achevée à minuit et c'est demain que les électeurs vont devoir décider du sort des 2 candidats se disputant la fonction suprême, Macron-Le Pen. L'heure de vérité, annonce la Charente Libre. L'heure du vote, précise Ouest France, alors que la Provence se demande si ce second tour sera, je cite, cousu de fil blanc. Au premier tour, il y a 2 semaines, 1,8% des électeurs ont choisi de voter blanc et l'on prédit qu'ils seront encore plus nombreux demain. Une forme de vote rejet qui, bien sûr, pèse sur le scrutin, mais garde cependant de l'avis du journal l'effet d'une balle à blanc. Tous les éditoriaux sont d'ailleurs sur la même longueur d'onde, dénonçant à la fois l'inutilité du bulletin blanc comme de l'abstention. Du reste, certains titres n'hésitent pas à donner leur consigne de vote, consigne dont toutefois je ne peux me faire l'écho car nous sommes entrés en période de réserve électorale. Tout juste, puis-je vous dire qu'une fois n'est pas coutume, Libération et le Figaro plaident pour le même candidat. Il ne faut pas oublier qu'on ne vote pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, ceux qui n'ont aucun moyen civique de défense, peut-on lire dans le premier, tandis que le second évoque un choix de la raison. De son côté, le Parisien revient sur la jeunesse des 2 finalistes, de leur enfance à la course à l'Élysée, portrait croisé d'un homme qualifié d'ovni politique et d'une femme présentée comme l'héritière d'une saga familiale hors norme. Le journal dresse par ailleurs le plan de travail des candidats, décryptage de leurs principales propositions, même dossier dans les pages de l'Éco-Républicain qui indique quelles seraient leurs 8 premières mesures. Deux autres angles d'attaque dans Libé ce matin. Tout d'abord, un papier sur le manque d'assesseurs pour les bureaux de vote. Demain, normalement, ce sont les partis politiques, des candidats en présence qui fournissent les assesseurs, mais comme l'explique André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, aujourd'hui on a d'un côté un parti dont les militants ne souhaitent pas forcément se montrer et de l'autre un mouvement pas encore très organisé. Les deux formations sont donc incapables de fournir les dizaines de milliers d'assesseurs nécessaires au bon fonctionnement des 66 000 bureaux de vote. Dès lors, si nécessaire, les électeurs eux-mêmes pourraient bien être réquisitionnés demain matin et a priori, à moins de ne savoir ni lire ni écrire, pas moyen de refuser. Dans le journal, vous pourrez lire aussi ce reportage dans un commissariat du 10e arrondissement de Paris. Les agents croulent sous le nombre de demandes de procuration. La file d'attente ne se réduit pas depuis 2 semaines. Je n'ai jamais vu ça, explique l'un d'eux. Un habitant du quartier raconte qu'on lui a conseillé, pour ne pas trop attendre, de se présenter dès 4h du matin. La seule certitude finalement. Et ainsi que le titre La République du Centre, c'est que la fin du suspense, ce sera demain soir à 20h.
Oui, en revanche, pour la Turquie, l'inquiétude, c'est maintenant.
3 semaines après son référendum, Erdogan resserre sa poigne. C'est le titre à la une du Figaro. Le président turc continue de durcir son régime et les arrestations d'opposants ne cessent de croître. Lisez le reportage de défilés minuit, une crispation sécuritaire qui paraît sans limite et qui va de pair avec de récentes prises de décisions qui réduisent encore plus l'espace d'expression en Turquie, le blocage de l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia dans un pays déjà connu pour son contrôle tatillon des réseaux sociaux ou encore l'interdiction soudaine d'émissions télé de rencontres amoureuses. Fin avril, 9000 policiers ont été suspendus tandis que plus de 100 000 fonctionnaires ont été mises à pied depuis l'été dernier.
Un petit peu plus léger peut-être pour finir ?
Oui, tout d'abord de jolies phrases relevées dans les pages de Paris Match. Un chanteur, une actrice. L'actrice, c'est la belle Monica Bellucci qui sera la maîtresse de cérémonie du prochain festival de Cannes. Aujourd'hui, confie-t-elle, je trouve qu'un homme qui a des rides est plus intéressant qu'un homme qui n'en a pas. Les signes du temps sur son visage me plaisent. Elle dit qu'on voit mieux l'âme à travers les froissements du corps. C'est pour vous, Pierre Veil.
Oui.
Le chanteur, c'est Julien Doré. Il est actuellement en tournée et sur scène, il défend les titres de son tout nouvel album. 6000 spectateurs en moyenne chaque soir et lui aussi, il parle bien. Je suis convaincu de la grande utilité des artistes, explique-t-il. Plus l'époque est hostile, plus la culture est essentielle. On ne peut que lui donner raison. Cela étant, les hommes, avec ou sans rire, ont également parfois des formules très bizarres. Petit échantillon dans le numéro de mai du mensuel Cosmopolitain. Échantillon rédigé par 2 consoeurs. Visiblement, ce sont les propos de leurs conjoints qu'elles retranscrivent ici. Exemple de propos d'hommes. Donc, pour laver du coton, je mets le programme coton. J'ai une tendinite aux 2 pouces. L'étagère entre nous, c'est quand même pas très grave qu'elle soit fixée de travers. Je peux emprunter ta crème visage pour mes mains. T'inquiète pas pour l'odeur de bière, c'est simplement parce qu'on a bossé super tard hier. Je ne vois pas ce que tu lui trouves à Ryan Gosling. Et ma préférée pour finir, est-ce qu'il reste du pain pour finir la pizza ? Est-ce qu'il reste du pain pour finir la pizza, Patricia ? Mais bon, de toute façon, même si du pain il n'y en a plus, il reste peut-être de la baguette.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.